Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de ce nouveau numéro de votre rendez-vous littéraire. C'est en effet Wagon Livre et nous vous accompagnons jusqu'à midi sur votre radio locale en ce samedi 11 avril. Aujourd'hui, nous vous proposons d'explorer les archives de votre émission littéraire. En effet, parmi les 400 numéros de Wagon Livre déjà diffusés, nous avons sélectionné des extraits d'interviews que nous allons vous permettre d'écouter en nouvelle diffusion. Nous vous emmènerons dans les couloirs de l'histoire grâce à Pierre Basset, qui évoque une figure de la Troisième République, Jules Ferry. Nous aurons l'occasion de réentendre Richard Adam, auteur et créateur en 2005 des éditions associatives du Panier d'Ortie. Richard Adam qui nous a quittés en décembre 2019, nous aurons d'ailleurs l'occasion dans cette émission de lui rendre hommage. Nous ouvrons ce numéro de Wagon Livre, ce Radio Archive Wagon Livre, avec Sophie Erfort. Sophie Erfort est historienne de formation, auteure de nombreux essais. Elle a consacré 20 ans de sa vie à élucider l'affaire Jack l'Éventreur. Et sa thèse, aujourd'hui, fait autorité, on la retrouve notamment dans deux ouvrages, l'un intitulé « Jack l'Éventreur démasqué » aux éditions Talendier initialement et maintenant disponible en édition de poche dans la collection Point Seuil, et puis l'autre essai de Sophie Erfort a pour titre « Jack l'Éventreur, Scotland Yard savait ». Alors, selon Sophie Erfort, le serial killer de Londres était un gradé de la police anglaise. Explication de Sophie Erfort sur cet homme qui terrorisa Londres avec 5 meurtres horribles commis en 1888. Sophie Erfort.
Jack l'Éventreur est le célèbre assassin des rues de l'Eastend qui sévissait à l'époque victorienne donc en 1888. Donc il a sévi dans une fourchette très restreinte. Il faut savoir que son premier crime remonte au 31 août 88 et il s'est arrêté 2 mois plus tard, le 9 novembre 1888. Justement, le tout est de savoir pourquoi et de savoir comment un assassin qui a simplement tué 5 prostituées est entré dans l'histoire et que 124 ans plus tard, on en parle encore, alors qu'il y a eu des Ted Bundy et autres assassins qui ont fait des légions de victimes dont certainement on parle beaucoup, mais nettement moins que Jack l'Éventreur.
Alors pourquoi cette célébrité de Jack l'Éventreur alors que, comme tu nous le dis, la période des crimes est brève et le nombre de victimes, enfin, pardonnez-moi, n'est pas si nombreux que cela, mais c'est l'horreur du crime qui domine.
Alors, effectivement,
l'originalité.
C'est plutôt le choix adopté par Jack l'Éventreur, l'originalité, si vous voulez, dans le sens où ces victimes-là sont retrouvées en pleine rue. Elles ne sont pas cachées derrière les murs d'une maison, elles sont livrées à tous. Et surtout, le rôle de la presse qui a relayé ces crimes d'une nature atroce. Et il faut savoir qu'à l'époque victorienne, nous avions plus de 500 journaux qui existaient donc sur le marché. Donc vous imaginez l'ampleur de tels crimes. Alors que dans le fief de l'Eastend, les violences domestiques prédominent. Jack l'Éventreur, lui, rentre dans la légende en tant que premier tueur de la modernité criminelle. Et il devient cette image d'Épinal incontournable parce qu'il a éventré et égorgé des prostituées, 5 malheureuses prostituées sans le sou, qu'il a laissé à la vue de tous dans des quartiers très fréquentés où vivaient des centaines de milliers de personnes, d'individus qui souvent étaient de souche immigrante. Et c'était des quartiers extrêmement commerciaux, des quartiers très passants, et c'est pour cette raison aussi et pour cette faculté que Jack l'Éventreur avait de manipuler la presse qu'il a réussi à intégrer la mémoire collective.
Par conséquent, le point commun de toutes les victimes de Jack l'Éventreur, Ce sont des prostituées.
Ce sont des prostituées, mais des prostituées de seconde zone, celles qu'on appelle les femmes amarres, des femmes qui n'attirent le regard de personne, et surtout pas de clients qui sillonnent ces rues-là. Vous savez que les débits de boissons fermaient à partir d'une heure du matin, donc après, il n'y a plus personne, normalement, qui sillonne les rues. Donc ces femmes-là, elles ne sont quasiment pas visibles, parce qu'on est à l'époque où les premiers becs de gaz commencent à faire leur apparition dans ces quartiers-là. Elles ne sont même pas regardables, parce que même pas attirantes. Ce sont des femmes de plus de 40 ans, à une époque où on est vite ravagé par les abus d'alcool, par le gin, qui est quand même une boisson qui fait autorité dans ces quartiers-là. Une femme de 40 ans à cette époque-là, ce serait une femme ravagée de 60 ans à notre époque, qui aurait consommé à outrance. Donc ce sont des femmes de rien, souvent veuves, sans le sou, divorcées. Elles obéissent à un certain profil. Elles sont extrêmement vulnérables. Elles ont besoin de cet argent. Il faut savoir que les prostituées de l'Istène, majoritairement, avaient un autre emploi. Elles étaient ou couturières la journée, ou ouvrières, mais en tout cas, c'était un surplus. Cette manne qui provient de la prostitution était un surplus financier pour qu'elles puissent effectivement subvenir à leurs besoins. Mais ces femmes-là, elles étaient vraiment ruinées, quoi, hein, jusqu'au dernier subside. Donc pour elles, c'était impérieux qu'elles se prostituent, et elles ont malheureusement fait la rencontre d'un homme qui va les marquer dans tous les sens du terme, si j'ose dire.
Alors, quelles sont les spécificités de Jack l'Éventreur? Il signe ses crimes en lacérant les corps de manière très particulière, au point, Sophie, qu'on a pensé à une période, enfin c'est plutôt vous, parce que la police de l'époque est très démunie.
C'est-à-dire l'enquête piétine, parce qu'il y a aussi beaucoup de relais. La police est complètement effarée de voir cette nouvelle vague criminelle. On a une époque où il n'y a pas encore les premières techniques de profilage, où effectivement certains indices sont même passés à la trappe. Pour le corps d'Annie Chapman, on nettoie à grandes eaux le sang sur le trottoir, donc plus aucune preuve à disposition. C'est très dur de pouvoir remonter sur cette piste-là. Et l'assassin a une façon très particulière d'opérer. Il étouffe partiellement ses victimes, il les égorge et surtout il les éventre. Et accessoirement, il retire même des organes, il prélève des organes sur les corps de ses malheureuses victimes.
Mais alors, lorsqu'il
a volé un cœur.
Oui, mais Sophie Herford, le fait que le criminel, Jack l'Éventreur, soit capable de prélever des organes sur les corps de ces malheureuses prostituées tendrait à prouver que c'est quelqu'un qui n'est pas un amateur, qui est quand même quelqu'un doué d'un véritable talent médical ou chirurgical.
L'assassin dispose manifestement de quelques connaissances anatomiques, mais ça ne fait pas un praticien, un chirurgien, un médecin légiste. D'autres candidats au meurtre peuvent tout à fait avoir commis le meurtre. Et c'est là où justement la police a quand même omis un certain profil. C'est pour ça que je parlais des preuves des fois et des indices qui auraient pu servir à la police. C'est qu'il y a un autre corps de métier auquel on ne pense pas, les chasseurs et les taxidermistes, qui opèrent de la même façon que Jack l'Éventreur, de même que les chirurgiens et anatomistes et médecins légistes et autres étudiants en médecine médico-légale. Jack l'Éventreur incise méthodiquement les corps du sternum au pubis, exactement de la façon avec laquelle le taxidermiste opère. Et quand on constate finalement les preuves que j'ai pu rassembler contre mon suspect, on constate que ça colle parfaitement avec son histoire, avec son passé de taxidermiste, de chasseur, et que la dynamique de prélever les organes, c'est typiquement une manœuvre de chasseur. C'est pas une manœuvre de médecin légiste que de repartir avec un cœur sous le bras, avec un morceau de vessie ou d'utérus. Or, je rappelle que pour la dernière victime, Mary Jane Kelly, en dehors du fait qu'elle ait subi des mutilations extrêmement sévères, c'est la victime la plus mutilée de la série. Et celle-ci, on la retrouvera dans une petite chambre de 10 mètres carrés dans Miller's Court. On lui vole quand même son cœur, il ne sera jamais retrouvé dans la pièce. Sur les lieux du meurtre, sur la scène de crime, on ne retrouvera jamais le corps de cette victime, de cette malheureuse victime, qui était la plus jeune de la série, puisque, exception faite des autres qui avaient plus de 43 ans, c'est une victime âgée de 25 ans, très jolie, pour le coup, dotée de charme considérable, de l'avis de certains, y compris de mon suspect, parce que effectivement, notre homme rentrera, je ne voudrais pas en dire trop sur mon enquête, mais rentrera dans les services de police, ainsi que l'annoncer une certaine énigmatique lettre du 7 novembre 88 envoyée au préfet Warren. Donc vous voyez que cette lettre comporte des éléments concordants avec mon suspect. Et donc, effectivement, il y a une méthode d'opérer très particulière. Et je pense que la police a fait quand même de lourdes erreurs à l'époque, puisqu'elle ne pense pas, elle pense aux médecins, aux bouchers, etc., un certain nombre de candidats, mais elle ne pense absolument pas, cette police de Scotland Yard, à la piste du taxidermiste et du chasseur.
Peut-on en vouloir à la police britannique à l'époque ? Y a-t-il une négligence ? Et si oui, peut-on parler de négligence volontaire qui aurait cherché à protéger quelqu'un en haut lieu ?
Effectivement, on peut imaginer aisément penser même que l'establishment, la Metropolitan Police, donc autant dire carrément Scotland Yard, cache l'identité de l'assassin. Parce qu'il y a certains comme éléments troublants à l'égard de l'affaire. Sir Robert Anderson, à l'époque, qui est le second du préfet Warren, semble indiquer que c'est une affaire qui est comme une patate chaude et que tous connaissent ce secret de polichinelle, que l'homme faisait apparemment vraisemblablement partie des services de police. Mais il en fera partie que quelques mois après la fin des meurtres. Et quand on pense à la piste du complot avec le médecin de la reine, c'est vrai qu'on suspecte qu'il y a une vérité qui est extrêmement gênante, mais ce n'est pas cette vérité grand spectacle. La vérité est quelque part, je dirais pas plus ordinaire, mais elle concerne de près la police. Et la police a fait de remarquables erreurs. Vous regardez déjà les archives de police avec les photos des meurtres, notamment Mary Jane Kelly. Vous constatez qu'il y a quand même trois initiales relevées sur ces photos-là. Un M et un V sur la jambe de la victime et un gros M en lettres de sang sur le mur de cette chambre. Pourquoi est-ce que la police n'en fait pas état ? Pourquoi est-ce qu'elle ne relate pas aussi l'histoire de ce fragment d'enveloppe avec une partie d'adresse, certainement celle de l'assassin ? En tout cas, moi, je le soutiens eu égard aux éléments laissés en place avec le Royal Sussex Regiment. Ce petit fragment d'enveloppe laissé près de la tête d'Anne Chapman, seconde victime. Pourquoi est-ce qu'on l'élude, ce détail ?
Mais à quoi correspondent ces initiales ?
Pour moi, c'est évident que l'initiale M correspond. Est-ce qu'on doit annoncer le nom de mon suspect à ce stade ? Bon, gardons le suspense un petit peu encore, mais il y a une partie de l'adresse, WSQ, enfin surtout le S et le Q qui fait partie quand même d'un fragment d'adresse du destinataire. Et ce fameux aussi fragment relate aussi l'histoire du Royal Sussex Regiment. S'il y a un cachet quand même, n'importe qui ne peut pas cacheter une enveloppe avec ce sceau de prestige. Il faut vraiment appartenir à l'armée d'Angleterre, à la Royal Armée d'Angleterre. Donc il faut vraiment accéder à un certain statut. Très peu de personnes en font partie. Devinez qui en fait partie de façon intégrante, mon cher Yannick, tout simplement le préfet Warren, qui en tant qu'ancien réserviste disposait d'une réserve de cachet du Royal Sussex Regiment. Et moi j'affirme que ce fragment d'enveloppe contient un mystérieux renvoi, un renvoi des services de police. C'est une lettre d'éviction tout simplement qu'il y avait donc dans ce courrier, et il était adressé, disons-le carrément, à un certain Melvin McNaughton. Et ce courrier donc date du 28 août 88, justement date qui correspond au renvoi d'un homme frustré qui certainement va passer à l'acte et va chercher à se venger non seulement sur les prostituées mais aussi sur les symboles de l'autorité. Rappelez-vous de cette lettre du 19 octobre 88, toujours adressée au dear boss et dear boss letter, au cher patron, où il dit que l'assassin agit à cause d'un motif contre les autorités du yard, et que le motif principal, c'est le dépit, effectivement, contre cette même autorité. Donc, vous voyez, il n'y a pas un seul motif. L'assassin n'en a pas seulement après les prostituées. C'est peut-être le tremplin qui va lui permettre d'agir, mais sa véritable revanche, c'est contre le préfet Warren. Les dear boss letters, le cher patron, c'est pas anodin. Il s'adresse au patron de police, à Sir Charles Warren, avec une certaine affection, une indifférence courtoise si on veut, mais surtout il s'acharne contre lui pour se moquer de lui, pour lui dire qu'en fait il n'arrive pas à l'attraper.
Donc c'est le jeu du chat et de la souris.
Le catch me if you can couché sur la lettre du Fromel envoyé Fromel avec une portion du rein de Catherine Eddowes. On a prouvé qu'effectivement le rein envoyé donc au comité de vigilance, au chef du comité de vigilance, Mr. Lusk, donc ce même comité qui est chargé d'inspecter les rues le soir quand la police ne le fait pas correctement. Donc c'est un groupe de commerçants qui en a marre de voir que l'assassin n'est jamais arrêté, que ça nuit au commerce local. Donc ils organisent des rondes le soir. L'assassin va envoyer au chef du comité de vigilance comme une portion de rein. On a vu qu'à la base des pyramides de ce rein souffrait apparemment d'une néphrite. C'était le cas de Catherine Eddowes. Alors est-ce une lettre de Jack l'Éventreur ? Je ne peux l'affirmer. Par contre, je suis formelle sur le fait que certaines lettres sur les 300 envoyées continuent en police De 88 à 96, il y en a au moins entre 10 et 20 de la main de l'assassin. Sachant qu'il y a quand même 300 lettres, vous vous doutez qu'il y a énormément de canulars. Mais sur certaines lettres, il y a des contenus assez troublants, puisque on nous laisse sous-entendre que Jack en a véritablement après la police et prostitué. Et ça correspond tout à fait, ces propos-là correspondent absolument de façon troublante aux propos tenus par un certain Melvin McNaughton dans ses mémoires intitulées « Days of My Years ». Donc ça a de quoi nous surprendre quand on pense que cet homme-là a été renvoyé des services de police 3 jours avant les meurtres, qu'il a parcouru par bateau, par steamer, 8000 km, radiant Calcutta et Londres, et on lui signifie son éviction alors qu'on l'avait convoqué, que Sir Charles Moran l'avait vraiment invité, convié, de façon officielle. On pense que c'est lui qui l'a convié, plus exactement, il était recommandé pour le poste. Il s'avère qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça, puisque le préfet de police n'est pas tout à fait au courant de cette admission. Et en fait, c'est un certain James Monroe qui a tenté d'introniser cet homme, sauf que le préfet Warren était à l'époque en déplacement dans le nord de la France, et quand il va faire son voyage retour, il va être très étonné de voir cet homme-là dans la salle d'attente. Il ne va même pas daigner le recevoir. Il va y avoir une dispute très sévère entre son second, James Monroe, un autre officier de l'époque, Anderson, qui assiste à la scène. Et donc, effectivement, Warren va carrément dire qu'il ne veut pas de la candidature de cet homme, qu'il a entendu parler de lui, qu'il est l'homme connu pour avoir été battu en Inde par ses ouvriers agricoles, parce qu'il faut rappeler que Melvin McNaughton a passé 12 ans en Inde et qu'il tenait une exploitation familiale de thé. Il y a eu une rébellion avec, depuis le passage de la Law Factory, enfin une loi assez complexe, qui ne favorisait pas les entreprises, les exploitations familiales, mais plutôt la grande industrie. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Donc il faut savoir que cet homme est assez frustré, et quand on lui offre l'opportunité de se dégager du joug familial, encore le conflit d'autorité avec le père, il accepte l'aide spontanément apportée par James Monroe, qui va devenir son ami. Il lui dit c'est bon, il lui dit c'est dans la poche, vas-y, rends-toi à Londres et tu l'auras le poste. Le patron du Home Office, qui est l'équivalent du ministère de l'Intérieur, avait validé cette proposition depuis mars 1888, donc quelques mois avant les meurtres. McNaughton fait le déplacement et patatras, on ne daigne pas le recevoir, mais en plus de ça, il est humilié. La Gazette de police du 28 août 1888 en fait état de cette éviction et de cette humiliation, comme quoi Warren l'aurait traité d'incompétent, de sous-fifre de seconde main, qui est incapable d'instaurer de l'autorité, qui s'est fait battre par, on a dit carrément de lui, qui s'était fait battre par ses ouvriers agricoles. Et donc, il n'est pas digne de confiance puisqu'il ne pourra pas avoir une autorité suffisante pour diriger au yard et diligenter les équipes. Donc, effectivement, ses projets s'arrêtent là. Et vous pouvez imaginer la frustration de cet homme qui ne va même pas être reçu par le préfet, mais qui va recevoir une lettre le 28 août 88. Donc, je rappelle, 3 jours avant les meurtres. Et d'ailleurs, en fait, je devrais dire plus exactement, c'est une lettre envoyée le 28 août 88. Mais vous savez que le service de poste met 2 à 3 jours le temps que la personne reçoive sa lettre. Et je vous rappelle que 3 jours après, il y a le premier meurtre de la série dans la nuit du 30 au 31 août 88. Donc à partir de là, tout coïncide. Je ne vous révélerai pas tous les autres éléments de l'affaire en chariadique, parce qu'il faut aussi préserver l'appétit du lecteur et peut-être des curieux de l'affaire. Mais en tout cas, j'ai réussi quand même, de mon fait, à accumuler plus de 30 preuves factuelles contre ce même candidat au meurtre, contre Melvin McNaughton. Et ma démarche initiale, d'ailleurs, n'était pas de démasquer l'assassin, mais simplement faire une petite enquête sociologique sur l'époque victorienne. Ce n'est qu'un accident si je me suis prise au virus, au challenge de pouvoir démasquer l'assassin.
À l'instant, c'était Sophie Erfort, rencontrée le 25 septembre 2011 au château du Clos de Vougeot, lors du salon Livre en Vigne. Sophie Erfort, historienne de formation, qui revenait sur l'affaire Jack l'Éventreur. Je rappelle les titres des 2 ouvrages de Sophie Erfort. D'abord, Jack l'Éventreur démasqué, qu'on peut trouver dans sa version originelle parue chez Talendier, mais que l'on trouve maintenant dans une version moins coûteuse et de poche dans la collection Point au Seuil. Et puis l'autre essai de Sophie Erfort a pour titre Jack l'Éventreur, Scotland Yard savait, c'est aux éditions Dorval. Jack l'Éventreur démasqué de Sophie Erfort, d'ailleurs, s'est vendu à plus de 40 000 exemplaires, et le quotidien Le Monde a qualifié sa thèse, je cite, de travail sérieux et passionnant.
Le prestigieux Docklands Museum de Londres a exposé en 2008 sa très crédible théorie sur l'identité du célèbre assassin de l'East End en 1888, Jack l'Éventreur, Jack the Ripper. Nous allons marquer une première pause musicale à bord de ce wagon-livre sur Radion. Juste après, nous retrouverons Richard Adam. Richard Adam qui est auteur, créateur en 2005 des éditions du Panier d'Ortie. Dans l'extrait que nous vous proposerons, il évoquera notamment les Romains qu'il connaît bien, qu'il a beaucoup étudié. Et il y est également question de Henri Vincenot, de Gaston Bachelard et d'une de ses publications. C'est Wagon Livre. Nous marquons une première pause musicale et on se retrouve dans une poignée de minutes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci en cette fin de matinée d'être en notre compagnie. Je rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Cette fois-ci, dans notre radio-archive Wagon Livre, je vous propose de réentendre Richard Adam. C'est un extrait d'une émission qui a été diffusée début mars 2011 sur votre radio locale. Richard Adam est né à Reims, un très beau parcours intellectuel, ancien élève de l'École normale supérieure, maître de conférences à la Sorbonne, spécialisé dans les textes historiques et l'archéologie italienne. Il a soutenu une thèse intitulée « Tite-Live, historien engagé ». Il est l'auteur chez Hachette d'un essai intitulé « Institutions et citoyenneté de la Rome républicaine ». C'est un véritable passionné d'archéologie qui était alors devant notre micro. Il habitait Oisy, un petit village dans la Nièvre. Et Richard Adam nous a quittés fin décembre 2019. Il avait créé en 2005 l'association du panier d'ortie, devenant ainsi éditeur associatif. Richard Adam avait écrit un certain nombre de romans particulièrement originaux, avec une langue bien particulière, renouant avec l'humour, les excès, le parler morvandiau qu'il affectionnait tant, et surtout des romans empreints d'une grande culture archéologique, historique, sociologique. On aura l'occasion d'en reparler dans l'extrait que nous allons vous proposer. Vous allez entendre Richard Adam parler des Romains, les Romains qu'il connaissait bien. Et d'ailleurs, il disait que selon lui, les Romains étaient les inventeurs du nazisme. Enfin, vous comprendrez un peu mieux les propos de Richard Adam en l'écoutant. Je rappelle, c'est un extrait d'une émission qui a été diffusée sur Radion début mars 2011. Richard Adam.
Je repensais en venant en voiture. Des gens comme Fred Vargas, Frédéric Audouin, qui est une vieille amie à moi, créent des personnages qui sont d'une solidité extraordinaire, qu'on peut réutiliser. Daniel Pennac aussi. Bon, il peut faire des sagas. Moi, je n'ai pas le talent.
Oui, Monsieur Malocène.
Momoul Mossi. Moi, je n'ai pas le talent pour créer des personnages d'un bloc comme ça, avec des tas de détails, tels qu'on puisse les réutiliser à l'infini. Des Maigret, par exemple, pour ne pas parler des très grands. Bon, donc ce sont des personnages flous. Mon druide, alors...
Ah, votre druide, il n'est pas si flou que ça, parce qu'on croit reconnaître l'influence...
On croit reconnaître Gaston Bachelard, c'est le fantôme de Bachelard, puisque Bachelard est de Bar-sur-Aube. Bon.
Et puis, mais... on pense quand même, votre personnage, donc votre pendu, qui est en fait la réincarnation d'un druide, on pense beaucoup à la gazette du pape des escargots de Henri Vincenot. Vous êtes dans l'ombre d'Henri Vincenot, mais...
Je suis un bourguignon d'origine champenoise, mais ça c'est accidentel. Je suis vraiment bourguignon dans l'âme. Et d'ailleurs, vous voyez, quand je dis bourguignon, je roule le R comme en Côte d'Or. Et bon, Vincenot, c'est pas du plagiat conscient, c'est qu'il est dans ma tête depuis des années et des années. Et à tel point, je ne me rappelais même plus le nom du personnage de la Gazette, mais je rappelais effectivement son fonctionnement. Bon, mon druide, c'est un petit peu différent. Je vais plus loin, en fait, que Vincenot. Il faudrait dire que Vincenot, d'ailleurs, pour parler châtillonnais. Alors, je vais plus loin que Vincenot parce que je fais tenir à mon druide des théories politiques, en même temps qu'écologiques. Donc là, je le dépasse. L'idéal gaulois, c'est pas le gaulois Vercingétorix, ce qui est plutôt un idéal d'extrême droite. Hein. Vincenot n'était pas... Vincenot était vraiment de droite,
oui,
très marqué. Bon.
Oui.
Et moi, je vais ailleurs. C'est-à-dire que je dis que les Romains, c'est pas par esprit de clocher gaulois, etc. Je dis que les Romains sont des gens qui régularisent tout, qui sont les créateurs du nazisme. Le citoyen est intégralement propriété de l'État. Ça fonctionne comme le régime hitlérien. Bon. Et nous, les Romains, nous ont envahis en 150 environ avant JC, avec du pinard. Bon. Manque de peau, les Gaulois étaient friands de vin.
Mais vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère sur
Jamais.
Les Romains. Pourtant, vous devez les aimer, puisque vous les avez étudiés, vous les avez
plus abordés. Plus je les étudie et plus je les déteste.
Ah là là, mon Dieu.
Enfin, c'est leur régime, c'est pas l'individu, je m'en fous.
Vous écrivez, enfin c'est le narrateur dans Le Druide de Sainte-Germaine, écrit, page 60, « Les Romains sont les grands massacreurs de l'homme vrai. » Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que vous nous promenez sur les sentiers de l'histoire dans ce polar avec, c'est vrai pour moi qui connaissais l'œuvre de Vincenot, on retrouve La Gazette, votre Gabriel Merlin, le fantôme de Gaston Bachelard. Alors Gaston Bachelard, c'est ce philosophe qui est né à l'extrême fin du 19e siècle, qui est né à Bar-sur-Aube.
Qui est enterré à Bar-sur-Aube d'ailleurs.
Qui meurt en 1962, et votre grand-mère l'a connu, vos grands-parents ont connu Gaston Bachelard.
Oui, mon arrière-grand-père était franc-maçon à la même loge que Bachelard.
Et Bachelard a donc été facteur avant de devenir le grand...
Il a commencé facteur, oui, il a fait le Besancenot au début, et puis il a passé donc ses deux thèses philo-physique,
voilà, oui.
Et il a fini au Collège de France en passant par la Sorbonne. Et il parlait sur une radio régionale avec un accent champenois épouvantable, mais il faisait des émissions de radio.
Je reviens sur la civilisation romaine. Vous écrivez dans le Druide de Sainte-Germaine que les Celtes sont les ennemis spirituels des Romains et que finalement l'Église catholique, par la suite le christianisme, va écraser. Donc les Romains ont écrasé les Gaulois et puis... L'Église, la chrétienté, va ensuite faire disparaître les restes de celtitude. Des lieux celtes ont servi aussi,
totalement,
ont été réappropriés par la chrétienté.
Le catholicisme, je rappelle qu'en grec, katholos signifie universel, catholicisme, ça veut dire totalitarisme. Il s'est parfaitement moulé dans l'autorité de l'Empire romain, dans ses catégories sociales et politiques. Et donc, il n'y a pas de rupture au point de vue politique entre l'Empire romain et l'Empire catholique. Ça, c'est parfaitement clair en Occident. C'est plus différent, c'est différent en Orient. Bon. Et effectivement, les catholiques se sont acharnés, en Bretagne par exemple, à abattre les menhirs ou à les coiffer avec des croix. Bon, ça c'est relativement marginal. Le druidisme a été interdit par l'empereur Claude, donc au tout début de la chrétienté, alors qu'on ne connaissait même pas le nom de Christos. À Rome.
L'empereur Tibère aussi, lui, a voulu éradiquer la...
Tibère également, oui.
Tibère, oui. Et vous dites que les Romains, eux, ont créé des routes, et c'est vrai, on le voit bien, des routes d'une rectitude, et vous dites que leur esprit était dans cette rectitude également,
puis,
alors que les Gaulois, eux, sont beaucoup plus dans le sinueux.
Il suffit de voir leurs objets d'art. Allez, à Bibracte, hein, pardon, mon beuvret. Bon... les Romains modernes, parce qu'au départ je m'étais pris aux fabricants de champagne.
Oui, on voit
parce que le champagne
aussi,
standardisé.
Vous êtes en colère.
Le champagne standardisé, c'est absolument dégueulasse. Toute la production des vignerons récoltants est envoyée à Chouilly, au sud d'Épernay, et on en fait une bibine. Ils font porter leurs raisins, et on leur donne les bouteilles toutes faites. C'est la même bibine chez tous les vignerons, sauf ceux qui sont manipulants. Alors les manipulants, ils peuvent faire preuve d'originalité. Mais sinon, tous les champagnes de récoltants de l'Aube, et maintenant de la Haute-Marne et même de l'Aisne, c'est tout le même truc standardisé. Bon. Alors au départ, je râlais contre ça. Je râlais également contre le culte de Gaston Schec. Gaston Schec, c'est en 1911 un type qui a pris la tête de la révolte des vignerons pour garder l'appellation Champagne, parce qu'effectivement, en appellation 75%, 100%, ça rapporte plus que l'appellation 40%. Nous, on est en limite de la Champagne à Bar-sur-Aube, hein, quand même. On est presque en Lorraine. Alors voilà. Donc je dénonçais ça, et puis je l'ai supprimé parce que il y a un écrivain local qui a fait la même chose de son côté. Donc avant de publier, j'ai supprimé tout ça, j'ai juste fait une allusion.
Alors vous vous posez dans la continuité des figures druidiques que vous mettez en lumière dans votre polar. Je pense donc à Rabelais, Mallarmé, Valéry, Bachelard ou Brel. Qu'est-ce que ça veut dire quand vous parlez d'eux comme des frères druides ? C'est quoi cette identité de druide ? Vous en êtes un, vous aussi ? Et qu'est-ce qu'un druide ?
Ça veut dire que j'ai une fraternité de pensée avec eux. Mais c'est du celtisme de fantaisie. Je me marre beaucoup quand j'écris.
Donc le druide, c'est quand même, c'est un jouisseur.
Oui, mais...
C'est un homme d'esprit, c'est un jouisseur. Il fume beaucoup et il boit. Pas forcément
la cervoise. Non, c'est pas le druide qui boit.
Le druide ne boit pas.
Non, c'est Germaine.
Ah, Germaine.
C'est la sainte qui fume et qui boit du whisky. Oui.
Et les saintes qui boivent et qui fument, donc.
Il
faudra quand même qu'on explique aux auditeurs qui est.
Mes celtes sont des celtes de fantaisie. C'est comme ceux qu'imaginait Amédée Julien ou Augustin Thierry au début du XIXe siècle. C'est du romantisme. En tant qu'historien, évidemment, je ne cautionne pas un personnage comme ça, j'ai écrit pour rigoler. Bon, quand je présente les Celtes à mes étudiants, il est évident que je le fais de façon beaucoup plus sérieuse. Bon, ce que je voulais, bon, je crée ça, le personnage de fantaisie, rabelaisien, débridé, c'est oui. Pour opposer les paysages, entre autres la terre de mon pays d'origine, autant où il y avait des forêts, où il y avait des haies, etc., aux niveleurs modernes, aux égalisateurs modernes, comme dirait Boris Vian, qui sont les nouveaux Romains, qui ont créé des vignes au cordeau. On ne reconnaît, il n'y a plus un arbre, on ne reconnaît plus rien. Et en plus, ils sont obligés d'arroser leurs vignes pour éviter le gel. Je fais une allusion d'ailleurs à un type qui a réellement vécu ça. Bon. Mais c'est de la pure fantaisie. Bon. Moi, je préfère effectivement un petit vin de mon village. Malheureusement, plus personne n'en fait. Mais il y a quelques années encore, j'allais vendanger avec mon voisin. Et on avait une petite piquette fort aimable qui n'a jamais fait mal à la tête à personne.
Alors parlez-nous, avant que nous rendions l'antenne, Richard Adam, parlez-nous tout de même de cette sainte chrétienne, donc sainte Germaine, puisqu'elle, le druide de sainte Germaine, elle est... Alors, elle a été massacrée par les Vandales, elle a vraiment eu un sein coupé, violée par les Romains. Qui est cette sainte Germaine?
Les saintes sont des fabrications d'écrivains, d'écrivaillons à très mauvaise imagination qui auraient eu des légendes et qu'on appelle des hagiographes. Bon. Alors moi je démonte sainte Germaine, on lui a mis une épitaphe en latin, et quel latin? Il y a des vitraux avec le dessin... le croquis de son matériel, parce qu'elle devait être bistrotière.
Les instrumenta.
Et alors, à partir de là, j'ai imaginé une convergence entre une authentique personne que j'ai rencontrée et la sainte imaginaire. Alors, donc, je redonne réalité à la sainte, parce que tous mes personnages ont vécu plusieurs vies. Hein.
Oui.
C'est banal.
C'est
comme un grand chien noir qui s'envole vers Colombey et les deux églises. Ouais. On voit ça tous les jours.
N'en dites pas trop.
Et alors, donc j'ai imaginé que Geneviève n'a pas du tout été tuée, comme on a dit, mais qu'en fait, elle est... Disons, c'est une grande amoureuse.
C'est une coquine qui provoque les hommes.
Et qu'elle avait un faible pour les grands guerriers germains. Et que, bon, bah, la légende veut qu'elle ait eu un sein coupé. Et... moi, je dis qu'elle a eu un sein mordu dans les élans amoureux.
À l'instant, c'était Richard Adam, un extrait de Wagon Livre diffusé début mars 2011. Comme je vous l'avais dit en début d'émission, Richard Adam nous a quittés en décembre 2019. Richard Adam était né à Reims, il avait fait un très beau parcours universitaire, il était maître de conférences à la Sorbonne, spécialisé dans les textes historiques et l'archéologie italienne. Il avait soutenu une thèse intitulée « Tite-Live, historien engagé ». Et puis, j'avais connu Richard Adam dans un salon du livre en Bourgogne, je ne sais plus où, précisément, mais je me rappelle en tout cas cet être chaleureux à l'érudition époustouflante. Et bien évidemment, en rencontrant Richard Adam, je faisais connaissance avec celui qui, en 2005, avait créé l'association du panier d'ortie, c'est-à-dire un éditeur associatif. Richard Adam avait d'ailleurs fait paraître des livres, des romans, dans cette maison d'édition du panier d'ortie. Je mentionnerai « Dégraisser les baleines »,« Les canquelles de l'étang de Baille »,« Bonhomme », »,« Le druide de Sainte-Germaine » dont il a été question dans l'entretien que vous avez pu entendre, et puis « Tonnerre et turbulence ». Et j'avoue que, pour Richard Adam, j'ai un faible pour un de ses textes qui s'intitule « Bonhomme ». C'est un texte de 140 pages que Richard Adam a écrit en hommage à un chien qu'il a adopté, qui lui a tenu compagnie pendant une dizaine d'années. Et c'est un texte émouvant, sensible, fort, dans lequel Richard Adam clame son amour, son affection sincère et raconte les 10 années passées avec Bonhomme sous des angles différents, comme s'il s'agissait d'une véritable histoire d'amour. Et je voudrais vous lire donc un extrait de Bonhomme de Richard Adam. Donc ce soir-là, il fut établi d'emblée que tu ne subirais pas les hasards de la SPA,
que tu ne retournerais à Auxerre que pour m'accompagner et que Luce Lapin ne signalerait pas un petit labris blond roux adorable perdu sur un trottoir d'Auxerre un soir de janvier 1996. Adopté d'emblée, il restait à te reconnaître, identifier, nommer. Les passages indispensables de la prise en main, on n'est maître que de ce qu'on désigne. J'ai fait une planche là-dessus, voici bien des années. Vous savez cette vilaine manie propre au dominant qui veut qu'à partir du moment où l'on donne un nom à un être vivant, il passe sous contrôle. « Sub manu », disaient ces horribles Romains qui, en s'adressant à leur dieu, n'oubliaient aucun nom et terminaient leur formulaire par ces mots « ou de quelque nom que tu veuilles être appelé ». Ou comme ce pédant tudesque de Jules Verne, dont j'ai oublié le nom parce que je n'ai pas envie de le posséder. Qui sait si les espèces rencontrées dans le voyage au centre de la Terre sont utiles ou dangereuses à partir du moment où il a prononcé leur nom latin. Je n'allais pas te dire « viens le chien », mais n'est-ce pas moi qui ajoute les majuscules comme Noiret dans le vieux fusil ? Tu avais un collier anonyme et pas de tatouage. La délibération fut brève. En ce temps, la rugby woman ne s'opposait pas encore au moindre de mes propos. Et devant tes mimiques amicales, le regard attentif de tes yeux marron-jaune, je proposais « bonhomme ». Proposition acceptée. Quelques jours plus tard, nous savions ta variété, petit labrite matiné de griffon nivernais, que dans ta ligne génétique, on naissait avec une queue longue ou courte, donc personne ne t'avait amputé, que ton âge dentaire était de 4 mois, donc tout jeune adulte, et pour l'administration, après une brève anesthésie, tu étais SKU 619. Je n'allais pas non plus courir après tes origines, je n'en ai strictement rien, mais rien à cirer. Je me fiche totalement des pédigrés, ces trucs de snob britanniques qui, transposés dans nos cambrousses, ne servent qu'à gonfler odieusement le prix d'un pauvre poupon né en captivité d'une mère immatriculée et d'un étalon parfois transporté à l'autre bout du pays pour une saillie aléatoire. Je ne sais si l'on a adapté aux chiens et pourquoi pas aux chats qui sont odieux, quelle que soit leur lignée, le système de lavage de la brebis ou de l'ânesse bout en train avec l'aide vétérinaire qui se dépêche d'imposer la capote au dernier moment. Cela m'étonnerait. Chats et chiens sont quand même trop futés pour se laisser berner de la sorte. Un autre extrait, cette fois, de « Bonhomme », texte de Richard Adam. « Cette mort, je sais que tu en étais conscient. Ta souffrance, ta faiblesse, tu savais que j'en souffrais aussi et tu ressentais ma douleur devant l'inévitable. La vétérinaire t'avait déclaré encore bon pour le service le samedi et dans la nuit du lundi au mardi, aussi près de moi que possible, tu rejoignais l'Orient éternel à ton tour. Les psychologues animaliers peuvent s'enrichir à raconter n'importe quoi. Ils devraient bien méditer l'histoire d'Argos qui attendit le retour d'Ulysse pour fermer les yeux une dernière fois. Homère n'avait pas besoin de ces charlatans pour tirer poésie d'un épisode vérifiable empiriquement. L'acacia est le rameau dont les meurtriers d'Iram marquèrent sa tombe que les autres maîtres font mine de rechercher pendant le psychodrame de l'initiation à ce grade. C'est aussi, nous dit l'étymologie, l'absence de mal, de malice, de mauvaiseté. Acacia. C'est donc le quatrième acacia qui fut le bon. Trois n'ont pas résisté aux gelées, le citise rose que j'avais trouvé complètement sec deux automnes de suite et finalement convalescent dans une terrine et passe l'hiver à l'abri. Au printemps, il me gratifie de quelques fleurs palottes. Je ne sais plus trop à quelle variété appartient celui-là qui a des feuilles un peu épineuses et que pour le moment je n'ai pas vu fleurir. Je l'ai laissé dans sa motte le temps qu'il s'habitue à son emplacement, puis j'ai creusé un trou dans la terre récemment livrée de surgit. J'y ai disposé l'urne avec tes cendres et, selon les rituels gaulois, ta médaille, une vieille balle toute déchiquetée et ton assiette familière dûment brisée. J'espère que les dieux de l'au-delà ne vont pas te prendre pour un chrétien parce que cette assiette est décorée de trois poissons. Comme tous ceux qui ont connu le pot, avant qu'il ne devint un self, j'ai subtilisé un souvenir de la rue d'Ulm et tu es peut-être le seul chien qui ait eu sa pâtée dans une assiette de normal sup. Des tulipes blanches disposées en rectangle signalent ta tombe au printemps et quelques vivaces bleues entourent l'acacia. Le cinquième, le vrai, qu'on appelle Mimosa, veille à la porte de la maison, dehors l'été, dedans l'hiver. En Toscane et en Provence, il signifie « bienvenue ». Un autre passage, toujours dans « Bonhomme » de Richard Adam. Alors, c'est un passage assez féroce, assez violent, qui montre toute l'antipathie que Richard Adam éprouvait pour les chasseurs. Les cerfs sont beaux, messieurs les viandards, et surtout, ils ont de bien plus grosses couilles que vous. C'est cela qui vous dérange, au point que, quand vos esclaves femelles revendiquent le strict minimum de liberté en vous faisant porter des cornes plus longues que votre bite, vous pariez le cocu, qui est forcément le voisin des bois du cerf. Le cerf le plus costaud élimine quelque autre mâle et saute 25 biches à la suite. C'est ça qui vous rend jaloux ? Oh, combien je vous comprends, mes cocus, qui n'avez jamais tiré vos femelles qu'à la sauvette, tels des cerfs qui ne tireraient qu'un coup par mois. Alors bien sûr, le double choc à canon superposé, c'est tellement viril quand on ne bande plus. Et puis, un dernier petit extrait de Bonhomme, texte de Richard Adam. Ça concerne Vézelay d'ailleurs. D'ailleurs, si cette vilaine grosse bâtisse de la superstition a été orientée en fonction du lever solstitial du soleil, cela prouve que Vézelay est fondamentalement gauloise. C'est pour cela que j'aime ce patelin, surtout depuis que les curés s'y sont fait discrets. Mais je m'égare, je n'ai pas à parler ici de Dieu, mais de chien. Concernant Vézelay, Richard Adam a écrit un texte intitulé « Sacré feu » qui raconte un Vézelay en juin 2014 dont la basilique Sainte-Marie-Madeleine est victime d'un attentat terroriste. Quelqu'un a essayé de mettre le feu à l'intérieur de la basilique, mais sans gravité. En tout cas, ce qui paraît être une sorte de canular au début va être amplifié par la découverte de trois crânes et surtout par les corps dont les têtes sont privées, des corps carbonisés dans Vézelay au point qu'il y a des odeurs de barbecue dans les rues de Vézelay. C'est un autre texte de Richard Adam, un polar absolument savoureux que je vous recommande. Voilà, c'est Wagon Livre, Radio Archive Wagon Livre. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. On marque une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après, si vous le voulez bien.
Dans son café rêveux, un nuage de lait. Puis marchant dans les flaques, elle comptait ses amours. Il y avait en ville des miroirs au pavé. C'était un jour de pluie et de vitrine en cours. J'étais comme le ciel étendu sans nuance. Ma valise était faite, une embellie passait. Je n'attendais personne, j'aimais bien ce silence. Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais. Le jour et l'heure où tout a basculé. L'instant précis même du malheur, quand le téléphone a sonné. Le jour de la douleur, de ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait. Je prenais tout mon temps, rien n'avait d'importance. Les terrasses étaient pleines et les rires s'envolaient. Il y avait dans l'air un parfum d'insouciance. Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais le jour et l'heure où tout a basculé, l'instant précis même du malheur, quand le téléphone a sonné, le jour et l'heure, les lieux précis de la douleur, de ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait. Je sais que l'on n'oublie jamais. Le jour et l'heure. Le jour et l'heure où tout a basculé, l'instant précis même du chagrin, quand le téléphone a sonné. Le jour et l'heure, longtemps après l'on s'en souvient, ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait, et ce à tout jamais.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci d'être avec nous pour ce Radio Archive Wagon Livre en cette fin de matinée sur Radion. Cette fois-ci, place à l'histoire avec un extrait d'une émission diffusée le 19 janvier 2011 sur l'antenne de Radion. Nous y recevions Pierre Basset qui venait de faire paraître un livre d'histoire intitulé « La Troisième République, une république qui n'a pas su se faire aimer 1870-1940 ». C'est un livre absolument passionnant qui déroule une galerie de portraits des hommes politiques marquants de la Troisième République. Et à cette occasion, j'avais demandé à Pierre Basset d'évoquer Jules Ferry. Pierre Basset, dans un numéro de Wagon Livre diffusé en janvier 2011.
Jules Ferry a été un homme qui a été considérablement apprécié, hein, je dirais. C'est Jules Grévy, le deuxième président de la République, qui le découvre et qui lui propose un premier ministère en septembre 1880, qui n'a pas duré pas très longtemps. Mais il lui a proposé ensuite un deuxième ministère en 83 qui a duré plus longtemps, qui a duré presque 3 ans. Il a laissé dans l'histoire, Jules Ferry, une double marque. D'abord, c'est à la fois l'homme de l'école pour tous, laïque, gratuite et obligatoire. Tout le monde sait cela. Ça paraît simple, et enfin, il fallait y arriver, on y est arrivé. Et je ne m'attarde pas sur cette période qui est très connue des écoliers et de tout le monde, et je ne saurais rien apporter de plus d'ailleurs, mais je parlerai du deuxième visage de Jules Ferry.
Le conquistador en redingote.
Exactement, oui. Oui, c'est André Marois qui l'appelle de cette façon. Non, pardon, c'est Jacques Chastenet qui lui a trouvé cette phrase. Et Jules Ferry, donc, c'est l'homme un peu de la colonisation. C'est un peu exagéré de dire ça, mais sur ce chapitre, on sent très bien que l'histoire actuelle le boude. Il n'est pas suivi par nos contemporains. Alors, il faut essayer de se replonger un peu dans l'esprit de l'époque. Et il faut prendre en compte les événements extérieurs qui nous contraignent à intervenir. Bon, il ne faut pas perdre de vue qu'à l'idée de république était attachée la grande idée force issue de 1789. La France a une mission civilisatrice à assurer. Alors, aujourd'hui, on va dans la Lune, on envoie des fusées de par le monde, on lance des messages, est-ce que nous sommes seuls dans l'univers? Et maintenant, voilà qu'on fait grief à un homme qui va essayer de faire connaissance avec tous les peuples qui sont encore inconnus dans le fin fond de l'Afrique. Alors, faut tout de même pas exagérer, hein. Mais bon, il faut bien dire aussi que les Anglais, de leur côté, n'hésitaient pas sur les moyens pour s'enfoncer dans les fins fonds de l'Afrique, les Allemands non plus. Bon, là, on se trouve dans un enchaînement un peu moins noble, on se trouve dans un esprit de concurrence. Bon, mais c'était un petit peu l'obligation du moment. On ne peut pas y dire autrement. Alors, on peut tenir aujourd'hui rigueur à Jules Ferry de ces épopées dites coloniales, me semble tout à fait injuste.
À l'instant, c'était Pierre Basset, extrait d'un numéro de Wagon Livre diffusé sur l'antenne de Radion en janvier 2011. Pierre Basset qui était venu présenter son livre d'histoire intitulé « La Troisième République, une république qui n'a pas su se faire aimer, 1870-1940 », un ouvrage qui est d'ailleurs toujours disponible en librairie aux éditions In Octavo. Dernière pause musicale à bord de ce Radio Archive Wagon Livre et on se retrouve juste après pour conclure.
Promets-moi, si tu me survis, d'être plus fort que jamais. Je serai toujours dans ta vie, près de toi, je te promets. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, de ne pas en faire un drame, de ne pas en avoir peur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime, rien ne nous séparera, même pas tu verras, on se retrouvera. N'oublie pas ce que je t'ai dit, l'amour est plus fort que tout. Ni l'enfer ni le paradis ne se mettront entre nous. Et si la mort me programme sur son grand ordinateur, elle ne prendra que mon âme, mais elle n'aura pas mon cœur. Pense à moi comme je t'aime et tu me délivreras. Tu briseras l'anathème qui me tient loin.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Le temps passe très vite en votre compagnie. Merci en tout cas d'avoir été avec nous en ce samedi 11 avril pour ce Radio Archive Wagon Livre. Nous n'avons pas d'invité à accueillir en raison de la situation actuelle. Donc la semaine prochaine, nous vous proposerons encore des archives extraites d'un gros corpus d'émissions, plus de 400 émissions diffusées sur l'antenne de Radion depuis novembre 2010. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez bien sûr sur le site d'archives de l'émission Wagon Livre via internet sur le www.yannickpetit.fr. Et bien sûr, vous y retrouvez également les références, les titres, les maisons d'édition, les collections des ouvrages dont il a été question aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous saluer. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur l'antenne de Radion. Excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous. Au revoir et à la semaine prochaine.